Et voilà, Onde Noire, deuxième partie. Et Jacques, tu vas nous parler d'un roman maintenant. On a fait la BD en première partie. Là, on est dans le roman.
Oui, un roman espagnol de Jordi Ledesma. Le roman s'appelle « Ce que la mort nous laisse ». Et il est traduit donc de l'espagnol par Madame Margot Nguyen Béro. Nous sommes non loin de Tarragone, un petit patelin sur la côte catalane, dans les années 90. Le tourisme a permis à certains de cette ville de bâtir une fortune assez rapidement. Mais sous ce soleil de plomb, il y a les profits exorbitants pour certains et les miettes pour les autres. Les touristes sont une véritable manne. En dehors de ça, une vie petite, l'ennui, les tentatives de baise, la drogue, la corruption. Et il va y avoir un mort. Grande Gueule, c'est pas son vrai nom. Un petit malfrat dont on retrouve le cadavre sur la plage, battu à mort. C'était un voisin, un camarade du narrateur. Et puis il y a Lucia, la plus belle du village. Tout le monde la regarde, tout le monde la désire. Mais elle est la femme du shérif local, surnommé le Crocodile, un Andalou qui est le chef de la Guardia Civile. Il règne en maître sur sa petite ville, quitte, sous promesse de protection, à prendre un peu pour lui, un peu beaucoup parfois, une part des juteux bénéfices du trafic de drogue. Et puis il y a tous les autres. Ignacio Robles, fils de famille et agent immobilier à temps partiel. Il y a aussi les jumeaux. Ce sont eux qui sont chargés de l'approvisionnement en substances diverses, très prisées pendant la période estivale. Et il y a aussi encore Sergi en catalan, héritier d'une grande famille qui se la joue, comme on dit par ici chez nous. Le narrateur, on ne sait pas trop qui il est. Il était là à l'époque, en 90, il est parti depuis, et il revient 20 ans après pour nous raconter ce bout d'été. Il tente de nous faire croire qu'il n'était que le témoin innocent de ce récit, pourtant narré en grande partie à la première personne. Du coup, l'écriture est faussement détachée. Je vous raconte, je ne juge pas, j'étais pas vraiment là. Et cela devient en fait la force du récit. La vision, quasiment en caméra subjective, celle du narrateur, qui devient par moments presque un récitant. Cependant, il n'a pas pu assister à toutes les scènes qu'il raconte, donc on ne sait pas comment il sait. Et du coup, presque bizarrement, c'est le narrateur qui joue tous les rôles par procuration. Il n'y aura pas vraiment de personnage principal dans ce roman. Chacun d'eux le devient quand le focus est sur lui, et tant que le focus est sur lui. Lucia, elle quand même, jouera elle, innocemment ou pas, vous verrez, le rôle classique de la femme fatale. Il en faut un dans tous les romans noirs, fussent-ils catalans. Il n'y aura pas vraiment d'enquête sur ce meurtre, ni d'interrogatoire, ni de forensique. Ce n'est pas là du tout le but de Jordi Ledesma, l'auteur. Ce roman, c'est une fresque sociale sur la déliquescence de cette station balnéaire qui a grandi trop vite et qui a laissé de trop nombreuses personnes dans le bas-côté, surtout la jeunesse. Le narrateur nous dit à un moment « Nous étions encore jeunes, nous grandissions sans conscience de classe, avec des caprices qui ne valaient pas grand-chose. Pourtant, c'est à cette époque que beaucoup de choses se sont mises en place. » Il y a dans ce roman, surtout concernant la jeunesse, une fatalité inéluctable et désespérante qui rappelle, par moments, le roman de Nicolas Mathieu qui a été primé l'an dernier.
« Leurs enfants après eux ».
Voilà, c'est pas quand même tout à fait du niveau. Je terminerai par une citation de Walt Whitman, en fait, qui est celle du titre. La citation complète de Walt Whitman, c'est « La vie est ce petit rien que la mort nous laisse ». Je n'ai pas retrouvé dans quel contexte il a écrit ça, mais disons que c'est d'un optimisme mesuré.
Très mesuré, effectivement.
C'est le troisième roman de Jordi Ledesma, c'est le premier traduit, et il passe immédiatement dans les auteurs, plus que prometteurs, dans les auteurs que l'on va suivre de près. Pour compléter, et vous donner envie de lire ce roman, voilà ce qu'en dit Carlos Salem, qui est aussi un auteur de langue espagnole.
Un écrivain espagnol, parce qu'il est argentin, pas espagnol.
Voilà ce qu'il disait à la sortie du troisième livre en Espagne. « Il n'y a pas d'antidote contre les romans de Jordi Ledesma. Il offre, une fois de plus, un récit directement planté dans la veine et sans anesthésie. »
C'est bien du Carlos Salem.
C'est un beau compliment auquel nous souscrivons totalement dans cette émission.
Un peu de musique, pas n'importe laquelle.
Alors, comme tu nous disais que nous allons recevoir au téléphone Mouloud Akouche tout à l'heure pour une petite entretien, nous allons écouter un groupe qui a été formé par son fils Martin, avec six copains toulousains. C'est une sorte de jazz funk de très très bonne facture. Martin est à la guitare, il y a trois soufflants, plus un clavier basse batterie. Ça pulse et ça groove vraiment très très bien. Le groupe s'appelle You Get, et le titre que l'on va écouter s'appelle, alors je vais le faire avec mon accent normal, Uncensored. N'hésitez pas à les suivre sur leur YouTube et sur leur Bandcamp, youget.bandcamp.com. C'est vraiment quelque chose de très bien. Uncensored, You Get.
Voilà, donc nous avons écouté la guitare de Martin Akouche et nous avons le grand plaisir de recevoir Mouloud Akouche. Bonsoir Mouloud.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir dans notre émission pour nous parler du novella. Alors tout à l'heure j'ai dit Le Donneur, mais c'est pas vrai, ça s'appelle pas Le Donneur, ça s'appelle Donneur. Et c'est paru assez récemment chez Inuit, les éditions Inuit, collection Polaroid. Petit format, grande qualité. Alors, deux mots de présentation. On vous a découvert, je crois, en 97 avec un poulpe, cause toujours.
Ouais.
Eh ouais, ça commence à faire un moment.
Ouais, on vit.
Ouais, mais pas les romans. Puis très vite, deux séries noires qui s'appelaient Avis d'échéance, qui s'appelle toujours d'ailleurs Avis d'échéance, Les Ardoises de la mémoire. Moins de textes longs depuis. On citera quand même un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle Cayenne chez Flammarion. Par contre, beaucoup de courts récits. Celui-là ne fait pas. Celui-là aussi est un court récit. Et je finis en précisant qu'on peut retrouver votre prose en des billets d'humeur, souvent noirs, souvent corrosifs, avec beaucoup d'humour, sur le site Mediapart. Peut-être vous collaborez à d'autres sites, je ne sais plus.
Non, c'est le seul. J'avais fait des trucs sur une... mais quelques textes, quelques nouvelles sur... c'était une revue de nouvelles, d'ailleurs, je me souviens même plus comment elle s'appelle.
Bon, on trouve, je pense que si on tape Mouloud Akouche sur Internet, on va trouver. On va parler de donneur. Donc donneur 2NEUR, c'est pas donneur kebab. Au début de ce récit, on découvre une jeune femme. Elle s'appelle Carole. Elle vient de se réveiller. Et par contre, son compagnon, lui, vient de mourir pendant son sommeil. Et elle a 48 heures chrono. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ?
Ben, en fait, Fabien, son mari, il a donné son corps à la science. Et quand on donne son corps à la science, on a 48 heures pour qu'il vienne le chercher. Et comme elle n'a pas très envie finalement de donner le corps de son mari à la science, donc elle part en cavale. En fait, elle part en cavale. Elle part 48 heures dans leur résidence secondaire à Cibourg, sur la côte basque. Et voilà, donc elle veut... Au départ, ils devaient être enterrés tous les deux à Cibourg suite à une promesse qu'ils avaient faite. Et lui, il a changé d'avis entre-temps, et donc lui a décidé de donner son corps à la science. Et elle, là, donc, elle a plus envie de donner son corps à la science.
Et justement, ce sujet, moi, m'a vraiment interpellée, parce que d'abord, on le trouve pas beaucoup dans la littérature. C'est le fait de donner son corps, c'est une chose, mais c'est les proches, la façon dont ils peuvent aborder le deuil en sachant que le corps va partir à une dissection ou à quelque chose, c'est quelque chose qui vous interpelle particulièrement, qui vous a... ce sujet, c'est assez étonnant, je dirais.
Ben, en fait, c'est lié à un pote qui est très malade depuis des années, qui est toujours vivant, mais qui était très malade. Et chez lui, en fait, il était alité, il pouvait pas, il n'y avait pas de boîte aux lettres, bon, je passe sur les détails. Chez lui, donc le courrier était laissé à l'étage en dessous. Et donc ce jour-là, j'ai monté son courrier, comme à chaque fois que je passais le voir. Et il a ouvert un courrier, et c'était son acceptation de donner son corps à la science. Et il l'a punaisé sur le mur. Et voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai lu ce que c'était. Et donc c'est parti de là, et je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'il y avait 48 heures, et puis récemment, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui s'est suicidé, et j'ai appris aussi que les gens suicidés ne pouvaient pas donner leur corps.
Ah tiens, aussi, ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Et donc Carole va fuir, enfin tout au moins va aller dans sa maison de campagne, et elle va rencontrer un autre donneur. Alors ce qui est drôle, c'est que finalement quand on réfléchit, donneur ça a plein de sens, c'est plein d'homonymie.
C'est pour ça que je voulais jouer là-dessus.
Et donc la personne qui va se retrouver en face d'elle pendant un court moment de leur vie, c'est Samir. Samir, donneur pas de leçons. Expliquez-nous Samir, racontez-nous un peu Samir.
Ben, Samir, c'est quelqu'un qui est donc en cavale, qui veut fuir la justice en fait. En fait, il est en cavale, il s'est évadé de prison et il doit partir. Mais bon, mais il a une vie assez, c'est un personnage assez complexe parce que il est tiraillé avec sa famille, avec notamment son père. Et donc là, il est en cavale, il doit partir et il tombe sur... Il est dans la maison où elle voulait prendre ses 48 heures de réflexion. Et donc tous les deux se retrouvent, en fait, c'est une espèce de huis clos avec deux personnages qui ont un lien sans le savoir, en fait, au départ.
Et ces 48 heures de réflexion, moi je prends le mot réflexion comme un miroir, parce qu'en fait ils vont fonctionner comme ça, l'un va être le miroir de l'autre alors qu'ils sont dans un déséquilibre total. Je pense que l'intérêt du récit et l'intérêt de l'écriture, ça a été ça, c'est-à-dire de prendre ces deux personnages qui sont pendant un moment en attente, en fuite, mais surtout en déséquilibre total.
C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux au bord d'un choix, en fait. Et c'est vrai qu'elle, lui, il ne veut pas donner son corps à la justice, et elle ne veut pas donner le corps de son mari à la science. Et donc tous les deux sont dans cette espèce de tension, parce qu'en fait ils sont dans une espèce de rétention, mais un peu, en fait, ils veulent retenir quelque chose. Lui, il veut échapper à la justice. Et elle veut conserver le corps de son mari, quoi.
Et peut-être chacun, l'un et l'autre, trouver un petit peu de liberté. En fait, vous écrivez sur les fragilités extrêmes.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des fêlures comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il... Finalement, je ne sais plus qui est sur le Audiard qui disait « Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière ». Quoi. Moi, j'aime bien les gens fêlés. En fait, j'aime bien. C'est-à-dire que souvent, je les trouve plus intéressants parce qu'en fait, ils sont pas... ils sont pas dans la normalité, quoi.
Et puis, on peut trouver des belles phrases pour tenter de décrire leurs sentiments. Ce qui est intéressant aussi, c'est le travail sur la langue, le travail sur les dialogues. Vous avez parlé d'Audiard, mais il y a des dialogues vraiment percutants, parce que c'est une rencontre, en fait, entre deux mondes. Et au départ, il y a une espèce d'incommunicabilité, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et petit à petit, ils s'apprivoisent là-dessus aussi.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. C'est qu'au départ, c'est un frottement, c'est plutôt explosif, et c'est presque un frottement, c'est au niveau sociétal presque. C'est un rapport de... c'est deux langues totalement différentes, deux mondes totalement différents, et puis peu à peu, qui vont basculer. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a même un passage du vouvoiement au tutoiement.
Tout naturellement. Après ils retombent un peu aussi dans leurs addictions, parce que Carole, c'est quelqu'un qui a une vie quand même assez trublionne, qui a eu des jumeaux, et puis qui a fait quelques séjours en cure de désintoxication. Donc elle va retomber un petit peu, puis ils vont passer au tutoiement. Il y a aussi, il y a évidemment Fabien, le mari de Carole, qui est mort, mais il y a une réflexion sur cette mort, sur une espèce de danse macabre, la mort comme danse macabre qui tourne vire autour d'eux, qui est assez impressionnante.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, comme tous les deux sont, l'un et l'autre, en fait, ils sont au bord d'eux-mêmes. Parce que là, ils ont des décisions à prendre, et là, il y a une espèce d'urgence, quoi. Effectivement, c'est sûr qu'il y a une espèce de danse macabre, quoi. C'est sûr que tous les deux dansent sur une espèce de dernier fil, comme ça.
90 pages pour raconter deux destins. C'était voulu au départ de faire un roman très court?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une commande, en fait, de Marc Villard. C'était au Festival de Lozère, et il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux pas me faire un texte pour ma collection? Et donc, j'avais plusieurs idées, dont celle-ci, mais j'avais déjà écrit un roman là-dessus, en fait.
D'accord.
Mais qui est complètement différent. C'est-à-dire qui est ce qu'on appelle, entre guillemets, la littérature blanche, quoi. C'est un truc qui n'a rien à voir, en fait. Mais l'idée de départ, c'est la même.
Ben en tout cas, on a eu grand plaisir à découvrir ce texte, hein, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité et une urgence dans l'écriture et dans les destins des personnages qui en font un très beau récit noir. Mouloud Akouche, merci beaucoup.
Ben merci.
À très vite et merci beaucoup. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Donc je rappelle, c'est des petits formats, il faut les réclamer chez votre libraire parce qu'ils sont pas très apparents. Mouloud Akouche, donc donneur, dans la collection Polaroid, non pardon, dans la collection Polaroid, oui, aux éditions Inuit. Il nous reste quelques instants donc, parce que tu as
voilà,
oublié
quelque
chose.
Voilà, je voulais préciser
que
le roman de Jordi Ledesma, je ne suis pas sûr d'avoir précisé.
Non, je suis même
sûr. Il s'appelle « Ce que l'amour nous laisse », mais il est publié aux éditions Asphalt, aux excellentes éditions Asphalt.
Tu n'avais pas donné le nom de l'éditeur.
Donc,
on est à la fin de l'émission. Notre formule rituelle, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Bonsoir, bonne soirée et à bientôt.